voyez que point de vue proprement exégétique, ce passage que nous avons commencé de lire, c'est-à-dire l'appel des premiers disciples, pose des quantités de problèmes. Ils sont sous-jacents, je ne vais pas entrer dedans, parce que c'est intéressant, c'est bien évident, de comparer la manière dont les synoptiques montrent la vocation des apôtres et la manière dont Jean montre la vocation des saints. C'est évidemment pas commode à faire une harmonie entre les deux. Ça, il faut le reconnaître. C'est très différent, c'est dit tout à fait dans un autre contexte, et c'est dit très diversement. Alors, évidemment, il y a diverses manières de dire Jean est tout à fait en dehors d'un point de vue historique. C'est un point de vue théologien. Il veut nous donner le point de vue de la vocation chrétienne de cette manière-là. On peut le dire, c'est sûr. Je crois que c'est entièrement vrai. Je crois que Jean, écrivant de fait son évangile après Luc, après Marc et Matthieu, Jean ayant vécu tout cela, le donne avec une précision nouvelle, qui n'empêche absolument pas la réalité des autres choses. Je crois qu'on peut dire que Jean a un réalisme même historique que n'ont pas les autres évangélistes. Encore une fois, c'est difficile à bien comprendre, mais je crois qu'on doit le maintenir. Jean n'est pas un historien, c'est bien évident. Il suffit de voir comment il fait les transitions. Vous voyez tout de suite que ce n'est pas un historien. Après cela, le lendemain, on voit tout ce qui peut passer. Donc, ce n'est pas un historien, c'est un témoin. Mais un témoin qui a vécu dans l'intimité du Christ, et ce témoin qui a vécu dans l'intimité du Christ montre les rencontres. C'est l'évangile des rencontres. Et alors, ces rencontres, je crois, prennent toujours une signification historique. Je crois qu'il faut comprendre que la vocation des apôtres, évidemment, il ne faut pas... Nous, la vocation pour nous, on dit oui, on quitte le monde, c'est classique, hein. Tandis que là, c'est le point de départ, il n'y a rien de classique. Alors comment ça s'est fait? Historiquement, c'est très difficile. Ils suivent Jésus, ils quittent, puisque Jésus le dit, qu'il faut tout quitter. Bon, ils quittent leur famille, c'est évident. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas quitter juridiquement. On quitte, on peut revenir, et ce qui me semble très important alors à retenir dans l'évangile de Jean, comme dans l'évangile de Jean et les synoptiques, c'est que Jean veut nous signaler que toute vocation a un double caractère. Un caractère personnel et un caractère communautaire. Le caractère personnel est premier, le caractère communautaire vient s'ajouter, mais n'est pas du tout à négliger. Le caractère personnel, c'est la rencontre avec le Christ. Et c'est ce que Jean veut nous montrer. Tandis qu'évidemment, quand je regarde les synoptiques, on a l'impression quelquefois que d'un coup de filet, on en prend 12. Hein. Alors, c'est très bien, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Que on peut faire un coup de filet comme ça quand il y a eu déjà des relations personnelles. Alors à ce moment-là, oui. On n'a qu'à tous se rappeler notre vocation. La vocation est d'abord quelque chose de tout à fait personnel, quelque chose de caché, quelque chose d'intérieur. Et puis, elle a pris un mode communautaire ensuite. Alors, mettez ici ce chapitre, ce passage que nous voyons avec le chapitre 6, fin du chapitre 6, quand nous y serons, je vous rappellerai ça. Et puis regardez les synoptiques et vous voyez la même chose. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait divers moments de rencontre avec le Christ. Moi je crois que c'est ça qu'on doit voir. Et ne pas chercher à reconstruire les épisodes historiques. Il faut laisser ça aux révélations privées. Alors ça très bien, très bien. Laissez ça aux révélations privées. Mais ce n'est pas un théologien qui doit le faire, ce n'est pas un exégète qui doit le faire. Alors les révélations privées peuvent nous redonner ça, une espèce de reconstruction C'est très beau, mais n'oubliez pas que ce n'est pas la science. Parce que nourrir des révélations privées, ça n'est pas la science. La révélation privée, c'est de l'ordre de la dévotion. On doit s'en servir si ça nous aide. Nous avons le temps de servir. Alors on doit s'en servir, on a le temps de s'en servir. C'est très bien, ça fait partie de printemps, de merveilleux, de petit pouce à droite et à gauche. C'est beau, c'est très grave. Vous voyez quelqu'un qui est plongé, vous voyez, dans tout ce récit extraordinaire que nous a donné des évangiles d'aujourd'hui. C'est beau, c'est très beau. Faisons attention, ne nous dispersons pas. Si, de fait, l'Esprit Saint a voulu cette sobriété, il connaît les évangiles. Il y a une raison. Alors, vous pouvez me dire aussi, si l'Esprit Saint veut nous donner aujourd'hui ces révélations privées, il y a une autre raison. Très bien. Il y a d'autres raisons. Et qu'il n'est pas au même niveau. Il y a une révélation qui est officielle dans l'Église, qui est pour la foi et qui commande toute la théologie. Et donc, il commence notre vie contemplative. Et puis, il y a les anecdotes du Saint-Esprit. Et les anecdotes du Saint-Esprit, c'est pour répondre à certains qui peut-être en ont besoin. Donc, ne maîtrisons pas les révélations privées. C'est très mauvais d'avoir un maîtrise. Faut jamais, vis-à-vis de quelqu'un qui est rempli de tout ça et qui dit c'est merveilleux, il s'ennuie, c'est merveilleux. Et puis c'est lui, je vous raconterai très belle histoire, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il ne dit pas, ah, moi je fais de la théologie, tu fais de la théologie. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne peux pas dire ça, que vous blessez, inutilement. Et je vais vous dire après, que là vous finissez dans un casier, et bien, hein, voyez, il est rationaliste, il ne croit pas aux révélations privées. Il ne croit pas. C'est très vrai qu'on ne croit pas aux révélations privées. Les révélations privées, c'est de l'ordre de la prudence éclairée par la foi. Ça peut très bien, dans notre époque d'aujourd'hui, nous rappeler la richesse du passage du Christ au milieu de nous. Saint Jean nous dit que si on avait raconté tout ce que le Christ avait vécu, eh bien l'univers ne pourrait pas continuer sous les récits de Jésus. Donc c'est déjà dit dans Saint Jean. Et si Saint Jean n'a pas raconté, c'est parce que le chrétien, il est un classique extraordinaire, le chrétien. Alors il donne les actes de ce qu'on fait. Et il nous met à vivre de cela. Dans la sanctité, la pureté de la foi. Mais certaines personnes ont besoin d'un arrivage, si vous voulez, plus sensible, plus. Qui leur donne des choses plus parlantes. Très bien. Alors, on peut très bien dire que cet arrivage arrive au bon moment pour nous montrer toute la richesse de l'écriture et s'oppose alors à ce scepticisme qui existe aujourd'hui dans certaines méthodes exégétiques du structuralisme qui dit on n'a pas une seule parole de Jésus. Là, il y a un contrepoint, vous voyez, qui montre juste un verre et qui nous donne alors des récits extraordinaires. Ça peut très bien comme ça. C'est difficile à savoir exactement. On n'est pas confident de l'Esprit Saint dans ce domaine-là, mais j'essaie de comprendre. Et nous devons essayer de comprendre. Alors, nous allons continuer à voir ce récit qui est commun de la rencontre de Jésus à l'égard de ce saint. On est arrivé à la dernière, c'est-à-dire à celle qui est particulièrement importante pour nous. Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André de Pierre. Donc on souligne cette petite rencontre particulière au niveau du lieu. Philippe trouve Nathanaël. Et lui dit, celui dont Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. Il a dû avoir un long silence à ce moment-là. Philippe regarde Nathanaël, Nathanaël ne dit pas. Nathanaël, c'est un intellectuel. Il ne faut pas l'oublier, c'est un intellectuel. Alors, vous savez, les intellectuels, ils disent c'est quand ils ont découvert eux-mêmes quelque chose. Tant qu'ils n'ont pas découvert eux-mêmes, n'est pas plus intelligent que moi, donc il ne peut pas le découvrir lui-même avant moi. Il faut toujours un peu humilié quand même pour trouver quelque chose avant. Celui dont Moïse a écrit dans la loi un second, nous l'avons trouvé. C'est très bien, Nathanaël a mis aussi à sang le Messie. Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que le prophète, nous l'avons trouvé. Celui qui n'est pas un intellectuel, comparativement à Nathanaël. Il a dû avoir un silence. Quand on est gêné, on fait toujours des gaffes. Toutes les gaffes que vous pouvez voir à droite ou à gauche, c'est la timidité. C'est une très bonne interprétation, ça. Quand on dit de s'arrêter fraternel, c'est que Dieu se bandit. Et non, il est intimidé. Vous l'intimidez. On intimide toujours beaucoup plus de gens qu'on ne pense. C'est curieux. Quand on ne s'intimide pas soi-même, non, je crois, je sais. Alors, on est toujours très très étonné de voir qu'on intimide les gens. Parce que c'est vrai. Et soi-même, on est intimidé devant des gens qui sont différents, de différentes générations. Mais alors, on ne se voit pas vieillir. On ne se voit pas vieillir. On ne voit pas qu'on est d'une génération. Mais et c'est vrai, quand on était gosse, on voyait les gens de notre génération, ils disaient, ça fait quand même quelque chose. Alors, Nathanaël, celui qui est très gêné en face de Nathanaël, il perd tous ses moyens. Alors il fait une grosse gaffe. Mais quand on est intimidé, c'est toujours une grosse gaffe. C'est-à-dire qu'on appuie trop. Ça nous laisse comme ça. Ah, il ne veut pas, tant pis, on va me faire la tête, c'est tout. Alors il a réveillé sa curiosité. Il fallait réveiller la curiosité, ce que fait magnifiquement Jésus. Ça, c'est la chose admirable que montre Jean. Jésus ne va jamais trop loin. Jésus n'est jamais intimidé. Il est sensible, il est merveilleusement fait, mais il n'est pas intimidé. Parce qu'il ne fait jamais bien. Non, il est toujours conduit par l'Esprit Saint et dit exactement ce qu'il faut dire. Alors la date ici, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Catastrophe. Il ne connaît pas l'Écriture, alors il parle de le Messie de Nazareth. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. S'il avait mieux connu l'Écriture, il n'aurait pas dit ça. Il faudrait rester tout simplement, c'est étonnant, c'est qu'il vient de Nazareth, mais peut-être qu'il vient d'autre part. Il aurait posé la question, vous voyez. Et alors, Nathanaël aurait été intéressé. Il aurait posé la question, vous voyez, adroitement. Est-ce que vous pensez que. On a toujours dit à un intellectuel, il ne faut jamais donner une conclusion à un intellectuel. Il faut toujours lui poser une question. Alors, on est très intelligent. Il est merveilleusement intelligent, il conclut jamais. Vous avez tout à l'heure, c'est une grande intelligence, il ne peut jamais conclure. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Lui conclut. C'est peut-être 10 lettres, mettre des petits points et un arrêt, un silence. Et arriver pour une édition de Saint-Jean avec le silence. On est c'est très beau, ça. Alors on verrait. Les mises à la ligne, c'est pas rien, ça. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Quand vous voyez ça à la suite, ça ne va pas du tout. Vous ne comprenez pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu un dialogue entre quelqu'un qui est témoin. Il est témoin, Philippe. Il connaît quelque chose que Nathanaël ne connaît pas. Il est dans une situation terriblement difficile. Nathanaël est beaucoup plus informé que lui sur l'Écriture. Nathanaël connaît beaucoup mieux l'Écriture. Là, il dit quelque chose qui est maladroit. Et Nathanaël lui dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Espèce de naïf. C'est ce que ça veut dire. Quoi. Et si tu prétends que tu as rencontré le Messie, que Nazareth, mais quand tu regardes l'Écriture, quoi. Ça je dirais dans un style beaucoup plus direct aujourd'hui. C'est déjà assez direct. Hein. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Alors c'est très beau ça. Philippe a pris toutes les mœurs de Jésus. Il dit exactement la même chose. Mais dès qu'on aime quelqu'un, on prend ses mœurs. Immédiatement, par l'amour. Viens et vois. Quand il s'agit d'une rencontre personnelle, ça ne s'explique pas. Une rencontre personnelle, ça se vit. Et ça doit se vivre. Alors, Philippe n'a qu'une seule chose à faire, mais vois. Alors à ce moment-là, il n'osera pas dire de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon, il verra. Jésus vit Nathanaël qui venait vers lui. Alors ça, c'est aussi très beau. Jésus a voulu la coopération de Philippe. Jésus savait que Philippe était timide. Et Jésus répare, comme toujours, c'est de bonne volonté, Philippe. Il a fait une bêtise, mais il est de bonne volonté. Il est novice dans l'art de témoigner. Alors, il dit une bêtise, il va un peu trop loin. Il n'est pas très poussé en théologie, vous voyez. Alors, il fait une bêtise, il dit une chose qui n'est pas tout à fait juste. Et puis, dans l'auditoire, il y avait un témoignage. Et puis, il dit juste ça, il dit, on ne peut pas dire ça quand même. Alors, viens et vois. On se réfère à celui qui pourra expliquer. Jésus vit Nathanaël qui venait vers lui. Il dit à son sujet, voici vraiment un Israélite qui est sans détour. Jésus dit ça suffisamment haut pour que Nathanaël entende. Hein? Ça c'est sûr. Mais il ne parle pas Nathanaël. Vous voyez, c'est là on voit l'intelligence hein, de la situation de Jésus. Et alors comment Jésus l'a-t-il dit? L'Esprit Saint, c'est la voix. Donc les intonations, c'est l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint l'intonation dans laquelle Jésus a dit ça. Ça peut se dire de multiples manières. Hein. Très difficile de savoir. Je crois qu'on peut le comprendre que par les résultats. Comme toujours. C'est dans un dialogue, vous savez très bien, on peut comprendre. Puisque ça nous est pas... S'il y avait le magnétophone, on aurait eu l'intonation. Mais ça ne nous est pas donné. Nathanaël lui dit, comment me connais-tu? Nathanaël, je crois, n'est pas très content. Parce qu'il est battu sur son propre terrain. Il est battu dans l'ordre de la connaissance. Comment me connais-tu? Il pose interrogation à Jésus. Jésus répondit et lui dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Là, il est complètement battu. Parce que quand il était sous le figuier, se reposait, il croyait absolument qu'il était seul. Hein. Jésus l'a vu. Nathanaël lui répondit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. Vous voyez, le seul qui a résisté, c'est Nathanaël. Il a résisté. Tous les autres, ça se fait d'une façon extraordinairement rapide, hein, leur conversion. Pour nous, un peu trop rapide. Tandis que là, il y a une résistance. On peut avoir une certaine résistance et devenir disciple du Christ. Il ne faut pas que la résistance dure trop longtemps. Tu vois? Mais il peut y avoir une certaine résistance. La résistance de Nathanaël, tout simplement, parce que c'est plus difficile, évidemment, quand on connaît beaucoup de choses, de devenir un enfant qui rentre dans le sein maternel. Quand on ne connaît pas beaucoup de choses, c'est très facile. On a un cœur tout à fait merveilleux, d'une souplesse étonnante. Pour les permettre, c'est plus facile de former quelqu'un de 18 ans que de former quelqu'un de 35 ans. Avis aux amateurs. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile, parce que c'est plus difficile parce qu'ils ont leur expérience. Ils sont des Nathanaël. Alors de temps en temps, comme deux Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Alors ils ne le disent pas, mais par derrière, ils le disent. On sait bien, on voit bien la réaction. Et c'est vrai, ça, c'est la chose humaine. C'est plus difficile quand de fait, on a déjà une certaine expérience, on a déjà un certain bagage. Ce qui est très beau, c'est quand l'intellectuel est converti. Il est le seul à porter témoignage directement. Il proclame sa foi. Quand vous regardez la vocation de Jean, la vocation d'André, la vocation de Pierre, la vocation de Philippe, ils n'ont rien dit. Parce que c'est le cœur qui est pris. Et quand le cœur est pris, on se tait. Tandis qu'ici, il y avait une résistance, qui était une résistance de l'intelligence. C'est-à-dire une résistance qui provenait des connaissances que Nathanaël avait. Nathanaël connaissait l'Écriture. Or, on met le lien entre le Messie et Nazareth, ce qui n'existe pas dans l'Écriture. Donc on ne peut pas mettre le lien entre le Messie et Nazareth. On prétend que le Messie sort de Nazareth. Non, ça ne va pas. Nazareth avait très mauvaise presse. Hein. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon. Ça en dit très long du reste, ça. Hein. C'est intéressant parce que ça montre bien que ça n'avait pas de bonne presse du tout, Nazareth. C'est du reste sans doute pour ça que Jésus a vécu 30 ans à Nazareth. Il n'a pas du tout vécu dans le lieu où il y avait la plus grande ferveur. Il a vécu dans un lieu où il y avait beaucoup de syncrétisme, beaucoup de passages, où la foi n'était pas très fervente. Nathanaël résiste dans son intelligence, dans ses connaissances. Une fois qu'il est conquis par le cœur, il met son intelligence au service de sa foi. Et c'est le premier qui formule sa foi, qui la témoigne. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Ça, c'est la conversion de son intelligence grâce à son cœur. Jésus prit la parole et lui dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu dessous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. Jésus montre, et ça c'est aussi très très beau, Jésus n'a pas fait ça vis-à-vis des autres, parce que c'était une conversion du cœur. Tandis qu'ici, Jésus veut pousser sa conversion jusqu'au bout, et Jésus mesure le degré de sa foi. Sa foi repose sur un signe. C'est jamais une très bonne foi. La foi doit reposer sur la parole de Dieu et non pas sur un signe. Quand la foi repose sur un signe, c'est toujours un peu fragile. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Jésus mesure, hein, il peut le faire, Jésus. Jésus mesure sa foi. Sa foi consiste parce que Jésus était là pour lui donner un signe. Il était obligé alors de comprendre qu'à ce moment-là, Jésus n'était pas n'importe qui. Parce que quand il était sous le figuier, Jésus l'a vu. Et Jésus l'a vu avant lui. Donc il l'a battu sous son propre terrain. Et Jésus l'humilie là. Hein. Il n'a pas accepté que Philippe voit quelque chose avant lui. Jésus montre qu'il voit quelque chose avant lui. Il saisit vraiment dans son intelligence pour lui montrer que il doit abdiquer. Mais il abdique à cause du signe. Tu crois, tu verras mieux encore. Donc Jésus veut que sa foi aille plus loin. Il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il s'adresse à la fois à Nathanaël et il s'adresse à tous les autres. Mais c'est aussi très important de voir que ce premier enseignement de Jésus est donné à Nathanaël. Parce que Nathanaël a des exigences que les autres n'ont pas. Cette parole-là, dite à Pierre, ce n'est pas ça que Pierre cherchait. Tandis que dit à Nathanaël, ça prend une signification profonde. Hein. Cette prophétie de Jacob à Bethel, hein, c'est extraordinaire, ce rêve de Jacob, eh bien oui, voilà, il se réalise. Alors on ne parle plus de Nazareth maintenant, vous voyez. On est très loin de Nazareth. C'est tout à fait autre chose. Et Jésus tout de suite veut le mettre en face de quelque chose de beaucoup plus grand. En vérité, je te le dis. Et Jésus parle tout de suite avec autorité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on retrouve dans tout l'évangile de Saint Jean. Amen, amen. Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors réfléchissons, si vous voulez, quelques moments sur ce point de vue de la théologie de ces saints. Parce que je crois qu'il y a là quelque chose de très important pour nous, du point de vue théologique. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de très analogue avec ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, à propos des sept églises, cinq apôtres, sept églises, alors jouer sur les nombres, hein, nous ne le ferons pas. Mais c'est quand même intéressant, dans l'Apocalypse, vous avez au début de l'Apocalypse, vous avez la vision de Jésus qui est au milieu des églises. Et vous avez la grande vision de Jésus en gloire et de Jésus grand prêtre en gloire. Et vous voyez que chaque église est en contact particulier avec un aspect du mystère du Christ. Mystère de participation. Et c'est vrai, c'est un des aspects. Le Christ, quand il se montre dans sa totalité, mais à l'égard de chacune des églises, il est lié diversement. Donc c'est au chapitre au livre premier et deuxième de l'Apocalypse. Oui, voici à l'Église, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite et celui qui marche au milieu des sept lampadaires d'or. Donc ça, c'est la personne du Christ pour l'église d'Éphèse. Quand vous regardez suivant, l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui a été mort et a repris vie, et ainsi de suite. C'est un des aspects. Eh bien, vous trouvez quelque chose d'analogue ici. Et c'est ça qui est très curieux. Le contact de ces cinq avec Jésus prend une modalité différente selon chacun. Quand il s'agit de la vocation de Jean et d'André, c'est l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Quand il s'agit de la vocation de Pierre, nous avons trouvé le Messie. Pierre ne dit pas nous avons trouvé l'agneau. Nous avons trouvé le Messie. Pierre n'aurait pas compris. Je veux dire, donc André ne dit pas nous avons trouvé l'agneau. Il dit nous avons trouvé le Messie. Ce qui veut dire Christ. Puis, quand il s'agit de Philippe, c'est Jésus. Quand il s'agit du témoignage de Philippe, alors il parle de Jésus, fils de Joseph de Nazareth, et mais surtout ce qui est important, c'est le contact de Nathanaël avec Jésus, fils de Dieu, roi d'Israël, et Jésus se nomme fils de l'homme. Alors comptez, hein, vous avez fils de l'homme, roi d'Israël, fils de Dieu, Jésus, Messie, agneau de Dieu. Vous avez six. Si on poussait bien, on trouverait bien sept. Hein. Vous avez six. Vous avez six dimensions du mystère de Jésus. C'est assez extraordinaire. Hein, dans quelques versets, du verset donc 35 à la fin du chapitre 1, vous avez j'allais dire, ces six lumières sur la lumière sur le Christ. On regarde le Christ comme l'agneau. Vocation de Jean et d'André. On regarde le Christ comme le Messie, c'est le Christ. C'est la fonction. On regarde Jésus dans son individualité propre. Jésus. On regarde Jésus comme fils de Dieu, comme roi d'Israël, et Jésus se nomme le fils de l'homme. C'est Jésus qui se nomme le fils de l'homme. Alors, vous pourriez à partir de là faire toute une théologie, hein, de ce que représente la rencontre avec Jésus. Pour chacun d'entre nous, nous rencontrons Jésus sous un aspect particulier. Notre rencontre avec le Christ n'est pas toujours la même. Et c'est vrai, ça. Si on était absolument lucide, on dirait, voilà, j'ai suivi l'agneau, c'est l'agneau. Vocation de Saint Jean, l'agneau. Vocation de Pierre, le Messie, le Christ. Vocation de Philippe, Jésus. Et ainsi de suite. Bon, est-ce que ça n'indique pas que la vocation chrétienne a diverses dimensions? Alors, est-ce que je ne peux pas regarder ici les diverses modalités de la vocation chrétienne? L'Esprit Saint, à la différence du théologien, a toujours un mode très concret. Et il parle toujours d'une manière très concrète. Dieu parle à travers les hommes. Dieu nous éclaire à travers les hommes. Dieu nous illumine à travers les hommes. C'est à travers les hommes que Dieu nous aide à comprendre. Alors, on va peut-être découvrir, à travers la vocation de ces cinq, tout le grand mystère de la vocation chrétienne, qui regarde le Christ en plénitude, mais avec des expériences différentes. La vocation chrétienne, c'est d'abord la vocation de Jean et d'André. Ça nous fait comprendre que tout de suite, la nouvelle alliance C'est une alliance d'amour. C'est le mystère de l'agneau. Dans la miséricorde, on découvre l'amour. La vocation de Jean, il découvre l'amour du cœur de l'agneau. La vocation chrétienne est en premier lieu une vocation d'amour. Et c'est bien la vocation de Jean qui exprime cela de la manière la plus nette. La vocation chrétienne n'est pas seulement une vocation d'amour. La vocation de l'amour montre l'exigence de la contemplation et de la contemplation pure. Une fois que Jean découvre Jésus, une fois que Jean découvre l'agneau, on ne nomme plus Jean, ce qui est très extraordinaire. Vous comprenez bien que l'Esprit Saint n'a pas fait ça pour poser des problèmes aux exégètes. Parce que ça pose des problèmes aux exégètes, celui qui a rendu, c'est qui, il n'est pas nommé. Jean n'a pas besoin de se nommer. On le reconnaît tout de suite, si on est de sa famille. Alors on le reconnaît tout de suite, et on voit tout de suite que c'est lui. C'est très beau que la vocation contemplative fait qu'on est caché dans le cœur du Christ d'une manière telle que l'ayant rencontré, on n'a plus de nom. On est caché en lui. Et c'est bien ça que ça nous fait comprendre. On est caché dans le Christ. On est perdu en lui. On est tout entier relatif à lui. C'est le propre de la vocation contemplative à l'état pur. La vocation chrétienne, c'est la vocation contemplative, mais qui a une modalité apostolique. C'est André. Dès qu'André a rencontré l'agneau, il devient le témoin. Donc, c'est bien l'œuvre apostolique. Il devient témoin. Jean-Baptiste aussi est témoin, mais en pur contemplatif. Il est témoin au désert. Il faut aller au désert pour le rencontrer. Tandis que André rencontre Pierre, hein, là où il est. Ça, c'est le propre de la vie apostolique. Et il l'amène. On voit très bien que son témoignage est tout à fait différent. Donc, la vocation chrétienne implique, comme seconde modalité, la vie apostolique. La vocation de Pierre, de Simon, c'est le seul à qui Jésus change le nom, exactement comme dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose de l'Ancien Testament qui demeure. Et c'est à l'égard de Képhas, hein, à l'égard de Pierre, de Simon. Alors c'est assez étonnant ça. Alors est-ce que ça ne nous montre pas la vocation du serviteur ? Dieu change le nom. On n'a pas besoin de changer le nom à l'ami. Parce que l'ami est tout entier relatif. Mais au serviteur, il faut changer le nom pour montrer que le service est un service substantiel. Ce n'est pas un service seulement par mode de contrat. C'est un service qui prend toute la vie. Et c'est pour ça que, de fait, il y a un changement de nom à l'égard du serviteur. Or, la vocation de Pierre, c'est bien la vocation du service par excellence. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le pape est serviteur des serviteurs. Parce que c'est la vocation de service. Celui qui a la plus haute autorité dans l'Église a nécessairement le plus grand service à rendre. La vocation de Philippe, c'est la pure gratuité. Suis-moi. Rien d'autre, c'est tout. La vocation de Nathanaël, c'est le point de vue de l'intelligence qui doit être entièrement donné au service de la foi. C'est assez curieux de voir ces différentes données, hein. Ces cinq modalités. Si je regarde saint Thomas d'Aquin et que j'essaie de définir théologiquement ce qu'est la vocation chrétienne, qu'est-ce que vous direz ? La vocation chrétienne, c'est avant tout l'exercice des vertus théologales de foi, d'espérance et d'amour. Nous ne dirions pas, la vocation chrétienne, c'est premièrement la loi. Non, non. C'est une personne qui nous sauve. à laquelle on adhère dans la foi, l'espérance et l'amour. Jésus est saisi dans la foi, l'espérance et l'amour. Donc, la vocation chrétienne, c'est en premier lieu les vertus théologales. Les vertus théologales ne suppriment rien de la loi, mais transforment. La loi fait de nous des serviteurs. La loi, c'est pour que nous devenions vertueux, les vertus morales. Nous savons très bien que les vertus théologales ne suppriment pas les vertus morales. Elles les assument. Et nous devons dire ça, puisque pas un iota de la loi ne disparaît. Donc, il y a les vertus théologales qui assument les vertus morales. Et tout ça est vécu dans la gratuité la plus pure. Je crois que c'est la meilleure façon de définir ce que c'est que la vocation chrétienne. C'est difficile de la définir autrement quand on regarde saint Thomas. Les vertus théologales qui assument les vertus morales, donc toute la grande préparation de la loi, et tout ça est vécu dans la gratuité. C'est exactement ce que vous voyez ici. Mais la différence, c'est que le théologien regarde ça d'une manière abstraite. Ici, nous regardons ça d'une manière concrète. Qu'est-ce que c'est ? Et selon un ordre qu'on ne pourrait pas dire en regardant uniquement d'une manière abstraite. L'ordre, il est net. La vocation chrétienne est en premier lieu une vocation d'amour. Ce n'est pas la foi, c'est l'amour. Rencontrer l'agneau, c'est l'amour. La vocation chrétienne est en second lieu le témoignage, l'espérance. On témoigne par la vertu d'espérance. Et dans la vertu d'espérance. Troisième, c'est Pierre, le service. Pour être un bon serviteur, fidèle, ben il faut l'acquisition des vertus. C'est bien évident. Et donc, il y a tout ce point de vue de la vertu qui est impliqué dedans. Et tout ça est vécu dans la gratuité. La vocation de Philippe. Et le fondement, c'est Nathanaël. C'est la foi qui doit dépasser toutes les montagnes. Et les montagnes les plus terribles, ce sont nos conclusions de savants, d'êtres intellectuels, qui ont découvert certaines choses et qui sont très fiers de les avoir découvertes. Il faut que la foi dépasse tout cela. La foi chrétienne dépasse toutes les montagnes, toutes les vallées. Et elle est quelque chose de fondamental, le don de notre intelligence à Jésus. Vous retrouvez toutes les dimensions, mais selon un ordre. Alors à partir de là, je peux dire que la vocation chrétienne, oui, c'est vraiment vivre de toutes les exigences de l'amour jusqu'à la contemplation. Donc la limpidité de la contemplation. Suivre l'agneau partout où il va. La vocation chrétienne exige un témoignage d'espérance. Quand notre espérance diminue, nous ne sommes plus des témoins. Il faut une très grande espérance pour être témoin. Parce que dès qu'on est témoin, on est dans la lutte. Et alors il faut cette espérance, cette victoire de l'amour, c'est ça l'espérance, qui est déjà donnée, même si nous sommes en pleine lutte, en pleine bagarre. La vocation chrétienne réclame un service. Chacun d'entre nous, nous avons un service. Un service particulier à remplir. Le service du théologien. Le service du cuisinier, parce que ce sont deux cuisines différentes et qui se ressemblent. Oui, parce que des deux côtés, on peut empoisonner. Voilà, c'est le service. Alors, donc c'est le service du théologien, c'est le service du cuisinier, ils sont tous les deux des serviteurs. Chacun d'entre nous, on a un service à remplir, hein, qu'on doit accepter, parce que si on n'a pas de service, alors on devient des enfants gâtés. Ça va plus. Alors on a un service à remplir, une tâche à remplir. On doit la remplir gratuitement. Le serviteur doit être pauvre. Il doit la remplir gratuitement. Pas du tout pour lui, uniquement pour Dieu. Et enfin, la vocation chrétienne, on le sait très bien, exige de nous l'obsequium fidei, une obéissance de la foi qui va jusqu'à l'offrande de toute notre intelligence. C'est beau de voir cela, parce que ça nous fait comprendre, si vous voulez, les vraies dimensions de la vocation chrétienne, à travers ces cinq. Je peux peut-être aller encore un peu plus loin, parce qu'il faut toujours essayer. Hein. C'est des pistes que je vous donne, pas plus, je ne veux pas les développer plus. Mais c'est important d'essayer de les comprendre. Nous avons vu, hein, si vous vous souvenez, alors là il y aurait quelque chose de très intéressant à voir progressivement, on ne fera pas jusqu'au bout, mais ce serait intéressant. Nous avons vu que le prologue, assumé, si vous vous souvenez bien, le prologue assumé les 11 premiers chapitres de la Genèse. Nous avons vu comment Jean-Baptiste était relié à Abraham, petit-fils d'Abraham. Après les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est Abraham. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir comment toutes les alliances qui sont données dans la Genèse sont reprises. C'est assez curieux, ça. Dans la Genèse, regardez attentivement dans la Genèse, à partir du chapitre 11, vous voyez l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Isaac, l'alliance avec Jacob. Trois alliances. Et puis, une bénédiction tout à fait particulière à l'égard des deux fils, les deux derniers de Joseph, les fils de Rachel. C'est très curieux, ça. Les fils de Rachel et de Joseph, hein, le Benjamin et Joseph. Les fils de Jacob, je veux dire. Le Benjamin et Joseph. Les deux qui sont bénis par Dieu. Vous en avez donc cinq. Vous en avez cinq, c'est très net. Hein. On ne peut pas dire, regardez dans la Genèse, vous ne pouvez pas en trouver plus. Il y en a cinq. Parce que les autres, hein, tous les autres fils de Jacob, ils sont mis un tout petit peu à l'ombre. Hein. Il y en a vraiment deux qui comptent pour le cœur de Jacob, et donc pour le cœur de Dieu. Il n'y en a que deux, Joseph et Benjamin, de deux manières tout à fait différentes. Donc il y en a cinq qui reçoivent une bénédiction de Dieu. Il y en a cinq qui sont des amis d'une manière très particulière. Alors, est-ce que ce n'est pas la reprise de ces cinq? Est-ce qu'il n'y a pas la reprise de ces cinq? J'ai tout à fait le droit de me poser la question. L'Ancien Testament doit nous aider à comprendre le Nouveau Testament. Alors, s'il y a un parallélisme, c'est très étonnant. Et le parallélisme est assez facile à comprendre. Dans l'Ancien Testament, n'oublions pas, on va de l'imparfait vers le parfait. D'Abraham au Benjamin. Il est évident que le Benjamin représente quelque chose de très particulier, puisque le cœur du Benjamin était collé à Jacob. Le Benjamin, il est aimé d'un amour extraordinaire. Quand on annonce à Abraham que le Benjamin doit partir, il n'hésite pas de dire, mais si mon Benjamin disparaît, je n'aurai plus d'enfant. Et il dit ça devant les 10 autres. C'est agréable. Parce que le Benjamin, lui, il est aimé d'un amour unique, d'un amour tout à fait spécial. Alors, est-ce qu'on ne peut pas découvrir? L'Ancien Testament, c'est de l'ordre de l'imparfait vers le parfait. Le Nouveau Testament, c'est l'inverse. Il commence toujours par le parfait. Parce qu'on n'est plus dans le devenir. Alors, vous avez tout de suite, hein, c'est facile à comprendre. Le Benjamin, ben oui, c'est le cœur de Jean, c'est bien évident. Jean, il a son cœur qui est collé à Jésus et le cœur de Jésus est collé à Jean. Alors c'est beau de découvrir Jean à travers le Benjamin, vous savez. Quand Jean est né, sa mère est morte. Oui, quand Benjamin est mort, est né, Rachel est morte. Alors Jean, c'est une naissance mystique à la croix. Et c'est vrai qu'il y a cela. Il y a un lien très étonnant entre Jacques, entre le Benjamin et Jean. Alors on voit tout de suite ce lien. Quand vous regardez André, André, c'est Joseph. Tout lui réussit à Joseph. André, vous savez, est à la racine de la vocation de Pierre. on serait à la racine de la vocation du pape, je vous affirme que ça nous donnerait un petit galon. Hein. C'est quand même quelque chose, ça. Être là, le médiateur pour la vocation de Pierre, Joseph. C'est vrai, c'est André, ça. Ça fait comprendre des choses étonnantes de Joseph. Hein. Vous avez ensuite la vocation de Pierre. Pierre, c'est Jacob. Ça, tout de suite, les 12 tribus. Ça jaillit de Jacob. C'est Jacob, l'organisateur des 12 tribus du peuple de Dieu. C'est Pierre. C'est Pierre, le nouveau législateur. Hein. Législateur de façon très particulière, mais c'est lui qui doit être le serviteur des serviteurs. Et toute l'Église doit reposer sur lui, comme tout l'Ancien Testament repose sur Jacob, les 12 tribus. Alors ensuite, vous voyez bien, Philippe, c'est Isaac. C'est la gratuité pure, Isaac. Isaac, c'est la gratuité pure. Je me souviens, le professeur d'exégèse que j'avais au Solfoire, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire, disait, ah, c'est pas commode la situation d'Isaac, d'avoir un père comme Abraham et un fils comme Jacob. Alors on n'a rien. C'est vrai, psychologiquement. C'est pas drôle d'avoir comme père Abraham, vous savez. Il devait vous dépasser. Hein. Il disait pas la mère comme Sarah, mais on peut l'ajouter. D'avoir une mère comme Sarah, captatrice, hein, un plan invraisemblable. Hein. Les jupons de Sarah, le petit Isaac, il était dedans. Il était incapable de choisir une épouse. Incapable, il était dans les jupons de Sarah. Il fallait choisir une épouse pour lui. Et c'est vrai, on voit très bien, ça c'est sûr. Le petit Isaac, il est pris comme vous. Abraham et Sarah, c'est quand même quelque chose. Et comme fils, Jacob, 12 tribus. Petit Isaac, hein, il est celui qu'on met sur la montagne de Moïra, qu'on immole. Hein. L'immoler, la gratuité pure. C'est merveilleux de voir toute l'histoire d'Abraham, toute l'histoire d'Isaac comme la gratuité. C'est la gratuité. C'est Philippe. C'est la gratuité. C'est cette gratuité extraordinaire. Et alors, Abraham, vous retrouvez Nathanaël. Ah, c'est très beau, c'est la foi. C'est la foi, et on voit très bien la victoire de la foi sur certaines résistances de l'intelligence. Alors vous avez donc, vous voyez, Ça fortifie, ça donne une structure étonnante sur la Genèse et sur la vocation des cinq. Et alors vous comprenez pourquoi il y en a cinq. C'est pas un oubli, vous comprenez ça. C'est vrai, ça c'est Jean le théologien. C'est Jean mené par l'Esprit Saint, le théologien, il nous donne la structure de la vocation. L'Ancien Testament, les alliances, la Nouvelle Alliance. Alors allons en dernier lieu et voyons que tous les 10 nous révèle la vocation de Marie. Il faut 10 hommes pour la vocation de Marie. C'est pas si mal, hein. Il faut 10 hommes. Il faut les 5 de l'Ancien Testament et les 5 du Nouveau. Et tous nous font comprendre la vocation de Marie. Et alors la vocation de Marie doit se comprendre à travers ces 10 lumières. Un peu plus pâles de l'Ancien Testament, mais lumineuses du Nouveau Testament. La vocation de Marie se comprend à travers Jean, à travers André, à travers Pierre, à travers Philippe, à travers Nathanaël. Alors c'est la vocation de Marie qui est la vocation souterraine. Alors éclairer le mystère de l'Annonciation à la lumière de ces 10, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Il nous est donné cela, si nous voulons, encore une fois, aller jusqu'au bout. Entrer dans, voyez, dans le langage même de l'Esprit Saint qui nous aide à saisir, ça c'est l'exégèse, à l'intérieur même de l'Esprit Saint, à l'intérieur même de l'Écriture. C'est ce que disent les pères de l'Église. Hein. Ce que dit saint Augustin, il y a un auteur commun. Pour comprendre parfaitement ce que dit l'Esprit Saint, il faut qu'à l'intérieur même de l'Écriture, nous découvrions cela. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas du tout l'exégèse moderne. Tout à fait, elle est linéaire. Donc là, c'est une exégèse théologique. C'est une exégèse mystique. où on va aller le plus loin possible pour découvrir comment il y a cet éclatement d'amour. C'est vrai, je crois que la vocation de Marie, c'est une vocation dans le silence. C'est une vocation d'amour en premier lieu. C'est dans le cœur de Marie. Et c'est premièrement ça. C'est le cœur de Marie. Alors les deux qui éclairent, Jean et le Benjamin. Et c'est vrai que le Benjamin nous fait comprendre sa mère, ça ne peut pas être autrement. Il est tellement lié. Alors c'est deux. Marie est la reine des apôtres. Et donc c'est vrai que André et Joseph font comprendre, Joseph dans l'Ancien Testament, font comprendre la vocation de Marie. Il y a là quelque chose de très grand, saisir dans la vocation, dans le cœur de Marie, dans l'emprise de Dieu sur le cœur de Marie, cette dimension apostolique. Marie est petite servante. Alors, les deux, et Jacob, Marie implique une gratuité absolue. Personne n'a vécu autant la gratuité que Marie. Une gratuité absolue qui se manifeste pleinement dans le mystère de l'Annonciation. Et la vocation de Marie est une vocation de foi. Elle est fondamentalement une vocation de foi. Alors, Nathanaël. Nathanaël négativement. Et Abraham. Les deux. C'est l'Ancien Testament qui est positif et le Nouveau Testament qui est négatif. C'est extraordinaire, ça. Là aussi, il y a sans doute des raisons pour lesquelles, de fait, il y a ces deux. Vous voyez, il y a là quelque chose qui, je crois, très important pour nous à saisir. La théologie de la vocation chrétienne. Et la théologie de la vocation chrétienne, elle nous est donnée là, à travers ces cinq. Vous avez donc ce premier moment de l'évangile de Saint Jean où vous avez ces trois grands axes qui nous sont présentés. Le prologue, la charte de la contemplation, Jean-Baptiste, l'espérance eschatologique, et les cinq qui nous font comprendre la vocation de l'amour. On est lié définitivement à celui qui est l'agneau. Et on comprend que la vocation chrétienne, c'est ce lien d'unité avec l'agneau. Nous allons entrer la fois prochaine, au chapitre 2, où nous commencerons la vie apostolique de Jésus.